Je veux recevoir, Seigneur, ce jour nouveau comme un cadeau que tu me donnes. C'est le présent à vivre au milieu de tous, disponible à l'accueil de l'autre. Hier est mieux connu, plus sécurisant. Demain peut sembler plus séduisant. Donne-moi pourtant le courage et l'audace pour ce qui m'attend en ce jour. Car voici, il faut aller et prendre sa part à la tâche du moment. Rencontrer, parler, écouter, agir. Alors Seigneur, je te remets ce jour entre tes mains. Puisse-t-il, par ta grâce, devenir bénédiction. Amen. Et je vous invite à prolonger cette invocation en chantant le cantique 390. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu béni vers lequel nous nous tournons ce matin pour recevoir de lui force, paix et espérance. Amen. Bienvenue, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous ce matin, à vous nos fidèles paroissiens et à vous qui êtes peut-être ici pour la première fois ou en visite venant d'un autre pays, d'une autre communauté, soyez tout particulièrement les bienvenus ce matin. Vous êtes ici, chez vous, dans cette maison de prière. Et bienvenue aussi, ou plutôt bienvenue, un bon retour à notre organiste du jour, François Delors, qui remplace Vincent Thévenin ce matin. C'est un plaisir de pouvoir retrouver et de pouvoir réentendre François, qui a été organiste chez nous de nombreuses années. Entrons dans cette célébration, je vous le propose en priant avec le psaume 16 que vous trouvez dans votre feuillet, et je vous invite à dire les phrases écrites en gras. Prions avec ce psaume 16. Dieu garde-moi, car j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, c'est toi le Seigneur. Je n'ai pas de plus grand bonheur que toi. Tu tiens mon destin, le sort qui m'est choix est délicieux, la part que j'ai reçue est la plus belle. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit ma conscience m'avertit. Aussi mon cœur se réjouit, mon âme exulte et ma chair demeure en sûreté, car tu ne m'abandonnes pas aux enfers, tu ne laisses pas ton fidèle voir la fosse. Prions encore. Ô Seigneur, le plus beau cadeau que tu nous fais, c'est la confiance que tu places à chacun de nous. Le fait que tu comptes sur nous, sur chacun de nous. Tu nous invites alors à vivre notre vie avec audace, foi, confiance. Or, souvent la peur, la crainte de mal faire ou de ne pas être à la hauteur, voire le découragement, nous paralyse et nous retiennent prisonniers de leurs filets. Alors Seigneur, nous te le demandons, oui, libère-nous de la peur, que par la grâce de ton pardon, elle laisse la place au désir et à la confiance. Amen. Le Seigneur ce matin nous dit ce qu'il a dit à Jérémie. Ne dis pas « Je suis un enfant, tu iras où je t'envoie, tu diras ce que je commande, n'aie peur de personne, je suis là pour te libérer. » Oui, frères et sœurs, le Seigneur est le don, le Dieu du pardon et de la vie. C'est lui qui nous envoie sur les chemins de la vie. Et pour cela, il nous équipe. Alors, allons avec la confiance. Allons avec la confiance que partout où nous irons, le Seigneur sera là pour nous conduire. Amen. Et je vous invite encore à chanter avec le cantique 409.
Et nous prions. J'aimerais que cette journée, ma journée, soit aussi un peu la tienne, Seigneur, et celle des autres. Aussi, je te demande pour aujourd'hui la grâce de ta parole. Que les mots et les gestes qui en témoigneront soient assez forts, assez clairs, pour que je les reçoive avec audace et confiance. Tout me dit en moi et autour de moi qu'il me faut avant tout me préoccuper de moi-même. Fais taire en moi toutes ces voix trompeuses, que je perçoive le doux murmure de ton évangile, qu'il fasse naître en moi la confiance simple des enfants de Dieu. Amen. Et nous le lisons dans Matthieu 25, versets 14 à 30. En effet, il en va comme d'un homme qui, partant en voyage, appelle ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit 5 talents, à un autre, 2, à un autre, 1 seul, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui des 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Lorsqu'après arrive le maître de ses serviteurs et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et en présenta 5 autres en disant « Maître, tu m'avais confié 5 talents. Voici 5 autres talents que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. » Celui des 2 talents s'avança à son tour et dit « Maître, tu m'avais confié 2 talents. Voici 2 autres talents que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. » S'avançant à son tour, celui qui avait reçu 1 seul talent dit « Maître, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu ramasses où tu n'as pas répandu. Par peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, le voici, tu as ton bien. » Mais son maître lui répondit « Mauvais serviteur, timoré, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je ramasse où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers. À mon retour, j'aurais recouvré mon bien avec un intérêt. » Retirez-lui donc son talent et donnez-le-lui à celui qui a les 10 talents. Car à tout homme qui a, l'on donnera et il sera dans la surabondance. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Et nous chantons le cantique 212 dans son entier.
Voilà, s'il y a un texte bien connu, c'est cette parabole dite des talents, et j'ai eu envie de reprendre ce texte bien connu, cette parabole. Même si on l'a entendue de nombreuses fois, elle continue quand même toujours à nous déranger un peu. Car honnêtement, ce n'est pas la lecture la plus sympathique. Ce n'est pas le premier texte qu'on choisirait si on veut présenter à quelqu'un l'Évangile, la joie d'être enfant du Seigneur, les bonheurs, les délices de l'Évangile. On est assez loin, semble-t-il, avec ce texte du message de pardon, d'accueil, d'amour inconditionnel. On est plutôt là face à un Dieu qui semble assez terrible, irascible. Quelle image cela donne-t-il de Dieu ? Et comment ne pas avoir pitié, finalement, de ce troisième serviteur, qui n'a pourtant pas si mal agi, finalement ? Il a même fait preuve d'une certaine prudence, de sagesse même, pourront dire certains. Alors Dieu a-t-il vraiment raison de le condamner ainsi ? Alors, cette première lecture assez spontanée et, somme toute, assez légitime, finalement, il faut bien réaliser que nous sommes quand même face à une parabole. Et une parabole, elle a ceci de particulier, c'est précisément d'avoir un peu pour but de nous piéger. C'est-à-dire une histoire toute simple, une histoire de la vie ordinaire, dans laquelle, à un moment donné, il y a comme quelque chose qui coince, ou qui nous fait sortir finalement du sentier habituel ou de ce qui nous semblerait la logique, quelque chose que nous sommes appelés à dépasser. C'est le principe même de la parabole. Et n'avons-nous pas tous, finalement, dans un premier temps, eu pitié aussi de ces ouvriers de la première heure qui râlent parce qu'ils sont payés la même chose finalement que ceux qui n'ont trimé qu'une heure ? N'avons pas nous aussi eu un peu de la compréhension pour ce fils aîné qui râle, lui aussi, quand son fils cadet revient et que le père tue le veau gras, et ainsi de suite, avec toutes ces paraboles. Et il en va de même, finalement, avec cette parabole des talents. Nous sommes tout de suite enclins à prendre la défense de ce malheureux troisième serviteur qui n'a eu comme finalement culpabilité que d'être un peu timoré. Et nous ne comprenons pas ce maître qui est cruel, qui lui enlève finalement le petit peu qu'il a pour le donner à celui qui a déjà beaucoup. Ça semble être contraire à tout ce que l'Évangile, au départ, semble promouvoir. Mais n'est-ce pas précisément la réaction que Jésus entend provoquer chez l'auditeur, chez nous, pour nous aider ensuite à aller un peu plus loin dans ce texte et comprendre peut-être ce qu'il veut nous révéler. Alors peut-être faut-il commencer, même si cela est de l'ordre de l'évidence, par rappeler qu'un talent, talenton en grec, c'est d'abord une pièce de monnaie, qui est traduite dans nos Bibles par le mot talent. Or le mot talent, par un glissement sémantique, précisément dû à la transmission et à l'interprétation de cette parabole, désigne aujourd'hui cette chose non quantifiable, qui est un charisme, un don, une aptitude. Cette faculté singulière que chacun a de participer au monde. Alors dans cette parabole, au départ, il s'agit simplement de pièces de monnaie. Mais commençons aussi par constater que les sommes confiées par le maître sont de fait absolument considérables, je dirais même déraisonnable. Car un talent équivalait en effet au salaire d'environ 6000 journées de travail d'un ouvrier agricole, soit à peu près 20 ans de travail. Donc cette dimension peut nous échapper à nous, lecteurs du XXIe siècle, mais pour l'auditeur de Jésus, elle suscite immédiatement une réaction, car il y a en quelque sorte de la folie à confier de pareilles sommes à des hommes finalement dont on ne sait pas trop au départ s'ils vont être fiables ou pas. Les sommes sont considérables. Mais il est toutefois souligné que le maître confie à chacun selon ses capacités, ce qui est une information importante. Il faut souligner cet aspect donc de la générosité et de la confiance du maître qui confie des sommes absolument gigantesques. Et sa réaction à l'égard du troisième serviteur sera peut-être à comprendre à la hauteur finalement de sa déception vu la confiance qu'il lui a pourtant témoignée au départ en lui confiant une telle somme d'argent. Alors on le voit, les trois serviteurs agissent de façon opposée. Deux d'entre eux investissent cet argent dans un travail et le gèrent habilement de manière à doubler leur mise. Le troisième, quant à lui, enfouit cet argent dans le sol pour qu'on ne lui vole pas. Une précaution qui, selon la loi juive de l'époque, dégageait en cas de vol la responsabilité de celui qui avait préalablement pris pareille précaution. Notons encore que le dialogue que le maître a à son retour est absolument identique avec les deux premiers serviteurs, malgré la différence des sommes engagées. Quant au malheureux troisième serviteur, il n'a pas de gain à présenter, mais il n'a pas de perte non plus à sa décharge. Il n'est ni un profiteur, ni un dilapideur. Il doit simplement rendre compte de sa crainte ou de sa passivité. Et son discours, du reste, reflète bien la vérité des relations qu'il a avec son maître. Quand il dit « Je savais que tu es un homme dur », lui dit-il pour justifier son attitude et expliquer sa peur. Une peur qui l'a paralysé et qui l'a empêché, en quelque sorte, de prendre le moindre risque avec la somme confiée. Alors si la somme confiée a encouragé les deux premiers serviteurs à prendre des risques, au vu probablement de la confiance dont ils étaient investis, pour le troisième, cette valeur, cette somme d'argent, l'a comme tétanisé. Ça lui a pesé. Et on le constate ainsi. Ce qui a de la valeur peut soit nous élever, ou au contraire, être un poids pour nous, nous faire ployer. La valeur, les charismes, les potentialités peuvent être une chance, mais peuvent aussi générer le repli chez celui ou celle qui a peur de perdre, finalement, ce qui lui a été confié. Le renvoi au banquier nous fait un peu sourire quand on lit ce texte. « Il te fallait confier mon argent chez les banquiers », mais cela indique surtout que le serviteur n'était pas obligé de multiplier la richesse confiée par ses seuls propres moyens. Il pouvait aller chercher de l'aide. Il n'était pas livré à lui-même, tout seul. Il pouvait avoir recours à d'autres personnes, plus compétentes que lui peut-être. Et cela laisse apparaître qu'un des messages de cette parabole, c'est que celui qui ne veut pas risquer les dons reçus par Dieu, quitte à les confier à d'autres, risque bien, finalement, de les perdre. Comme le dit lui-même le troisième serviteur, ce qui a motivé sa conduite, c'est la peur qu'engendre la dureté de son maître, dont il dit qu'il ne moissonne où il n'a pas semé, qu'il rassemble là où il n'a pas vanné. Le serviteur a eu peur de la réaction de son maître, peur du « qu'en dira-t-il ?», peur de perdre la face, peur de perdre son talent qui lui a été confié, peur de perdre au change. Or, la peur est vraiment mauvaise conseillère. Elle fait faire n'importe quoi. La peur est la vertu anti-évangélique par excellence. Avoir peur nous conduit finalement à devenir inutile, un serviteur inutile. Alors la parabole est à entendre, à mon avis, comme un encouragement. un encouragement à utiliser le mieux possible au bénéfice des autres autour de nous les talents que nous avons reçus. Il ne faudrait pas arriver à la fin de notre vie et dire au Seigneur « Voilà, je te remets le cœur que tu m'avais donné. Je l'ai très peu utilisé afin de ne pas faire d'erreur. » Ou la fantaisie que tu m'as confiée, je te la rends comme neuve. Elle n'a jamais servi. Le jugement portera sur les fruits que nous avons produits. N'est-il pas écrit dans l'Évangile selon saint Jean, « Je vous ai choisi pour que vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure. » Cette parabole est donc une invitation au courage. Dans la vie, il nous faut avoir le courage de prendre des risques. À l'image aussi de ce beau verset du livre des Actes qui nous encourage à faire preuve d'audace quand il est écrit, ou plutôt demandé, « Accorde à tes serviteurs de dire ta parole avec une entière assurance. » Ce terme d'assurance peut tout aussi bien être traduit par liberté, courage, audace, dire la parole avec audace. Jésus a été très dur, finalement, avec les pharisiens qui, dans le fond, empêchaient tout changement et qui voulaient, en quelque sorte, ériger une clôture autour de la loi et des traditions d'Israël pour les protéger, les laisser absolument intacts. Mais le christianisme n'est pas une religion du musée. Le Seigneur critique les traditions religieuses conservatrices qui refusent d'évoluer, de se développer, de changer selon les besoins du temps. Vous avez appris, mais moi je vous dis combien de fois le Seigneur ne corrige-t-il pas finalement l'interprétation un peu figée que l'on pouvait avoir des textes de la loi. D'une certaine manière, les trois serviteurs vivent une forme d'intranquillité. Le troisième parce qu'il a peur, et les deux premiers parce qu'ils acceptent de prendre des risques. Et reconnaître que nous sommes tous au bénéfice de dons reçus, reconnaître que Dieu attend de nous que nous les mettions au service des autres, c'est accepter de fait une forme d'intranquillité. Mais alors on peut choisir celle de la peur ou alors celle de l'audace. Quitte à reconnaître que la posture de serviteur, de croyant, ne sera jamais une position facile ou de confort, autant choisir l'intranquillité du risque pris que celle de la peur ou du conservatisme stérile. Notre Église protestante ici à Genève, comme la plupart des églises historiques d'Occident, est en période de grande mutation. Et comme je le dis souvent, nous devons éviter deux écueils qui seraient celui de la citadelle ou du musée, c'est-à-dire vouloir replier notre Église sur elle-même pour la protéger du monde ou alors vivre dans la nostalgie des temps passés. Notre Église doit pouvoir s'ouvrir au monde pour apporter le plus largement possible et le faire fructifier ce trésor inouï et sans prix qui nous a été confié, à savoir l'Évangile, cette parole d'amour inconditionnel de Dieu pour chacun, chacune, cette parole de pardon et de vie. Alors nous ne devons pas devenir un bastion d'irréductibles croyants se repliant sur eux-mêmes, mais nous devons faire preuve de courage et d'audace, et non pas céder à la peur, comme le troisième serviteur, car la peur réduit notre capacité d'action. Elle nous tétanise et nous fait nous replier sur nous-mêmes. Nous sommes parfois contaminés un peu par une forme de découragement, de peur ou de pessimisme face à la situation difficile du christianisme en Occident. Mais ouvrons les yeux et regardons. Regardons tout ce qui se vit dans une communauté comme la nôtre, dans une église, en dépit d'une certaine fragilité. Il y a du talent. Il y a beaucoup de talent. Que de richesses, que de compétences, que d'engagement. Tant d'attention manifestée à l'autre, tant de profondeur spirituelle. Tout cela, nous ne devons pas l'enterrer, sinon cela risque de nous être enlevé. Cette parabole, on l'a dit, souligne d'abord la générosité extrême du maître, voire sa folie, vu les sommes confiées. Une générosité qui, si elle n'est pas égalitaire, n'en est pas moins juste et équitable, car le maître donne à chacun selon ses possibilités. C'est-à-dire en tenant compte de ce que nous sommes, de qui nous sommes. Aucun serviteur n'est délaissé. Chacun a reçu finalement une somme considérable, peu importe qu'il ait eu plus ou moins que l'autre. Et il y a urgence à réentendre cette parabole dans ce monde qui nous met si souvent en comparaison les uns des autres, si souvent en compétition les uns contre les autres. Et c'est évident qu'il n'est pas facile de constater qu'un tel ou une telle a une meilleure santé que moi, une vie de famille plus harmonieuse que la mienne, une plus grande maison ou une situation professionnelle plus enviable. Et même au sein d'une communauté fraternelle ou d'une famille, ce genre de comparaison est inévitable. Mais n'oublions jamais pourtant que le Seigneur compte sur chacun d'entre nous. Le danger qui nous menace en trop regardant ce que les autres ont et que nous n'avons pas, c'est de ne plus savoir reconnaître ce que nous avons nous-mêmes reçu. Regardons chacune et chacun en nous-mêmes pour discerner le talent que nous avons reçu, dont Dieu nous bénit. Quel est ce talent que je peux faire fructifier ? C'est-à-dire, quel talent est-ce que je peux mettre au service du Seigneur et des autres ? Quel talent puis-je mettre au service du témoignage pour apporter plus loin ce trésor inouï que le Seigneur nous a donné, à savoir cet amour inconditionnel, cet amour qui change la vie et qui lui donne toute sa saveur. À nous aussi, comme aux serviteurs, le Maître fait confiance et nous traite comme des serviteurs adultes et responsables. Cela fait partie de sa grâce. C'est notre liberté de découvrir l'immensité du don qu'il nous fait et de nous en servir en nous appuyant tous les uns sur les autres. Nous pouvons nous en servir. Nous pouvons le faire fructifier en l'offrant le plus généreusement et courageusement possible. Ou alors, nous pouvons l'enterrer. C'est notre choix. Mais si nous l'enterrons, c'est nous-mêmes que nous risquons d'enterrer avec lui. Amen.
Prions. Je ne sais pas trop bien te prier, mais je sais que tu es là et j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ta clémence. Pourtant, parfois je doute, car je ne te vois pas, je ne t'entends pas. Comme tu l'as fait pour les pèlerins d'Emmaüs, nous te le demandons. Rejoins-nous sur notre chemin. Fais brûler notre cœur. Aide-nous à te reconnaître, à l'écoute de ta parole, au partage du pain et du vin de la scène. Ouvre nos yeux et nos oreilles, et nous pourrons nous associer au peuple des croyants, qui de tout temps et en tout lieu chante ta sainteté.
Et nous chantons le Sanctus au numéro 129. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Et de même, après le repas, Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang. » Le sang de la nouvelle alliance versé pour la multitude, pour le pardon du péché. Faites cela en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Amen. Et je vous invite à prendre l'Agnus Dei au numéro 130. Seigneur notre Dieu, au moment où tu nous fais la grâce de nous rejoindre, au moment où nous avons cette joie de partager ce repas en communion les uns avec les autres et avec toi, nous voulons étendre notre prière aux dimensions du monde. D'abord pour te remettre ceux et celles que nous aimons, ceux et celles pour lesquelles nous sommes en souci parce qu'ils traversent une période difficile. Mais nous te remettons aussi ceux et celles que nous aimons et qui sont partis en vacances, ailleurs, au loin. Que ce temps leur soit un temps de repos, un temps de ressourcement, un temps bénéfique. Seigneur, nous te prions pour tous ceux et celles qui ne peuvent pas partir en vacances, soit parce que leur santé ne leur permet pas. Nous te remettons ceux qui sont actuellement à l'hôpital, qui ont des soucis de santé, ceux qui sont seuls, qui ont des soucis de travail, de famille,
Oui, Seigneur, tu es celui qui veille sur chacun de nous. Et c'est pourquoi nous pouvons nous placer sous ta garde et nous pouvons te remettre ceux et celles avec lesquels nous partageons la vie, le monde, ici. Mais nous voulons aussi te remettre tous ces lieux de violence, d'injustice ou de misère aux quatre coins du monde. Seigneur, il y a tant de lieux, tant de lieux de souffrance ou d'injustice. Et nous voulons avoir une pensée particulière pour toutes nos communautés sœurs qui vivent leur foi dans des conditions soit de pauvreté, d'oppression. Seigneur, nous voulons aussi te remettre toutes les communautés chrétiennes ici à Genève, protestantes, évangéliques, catholiques, orthodoxes, pour qu'ensemble nous puissions effectivement faire valoir le talent dont tu nous bénis, pour que nous puissions ensemble être porteurs de cette parole pour cette cité. Alors oui, Seigneur, nous nous plaçons sous ta garde et nous te demandons ta bénédiction. Et toutes nos prières, Seigneur, nous les réunissons maintenant dans celles que ton Fils nous a enseignées et qui nous fait nous reconnaître enfants d'un même Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas, ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été rompu pour nous offrir la vie en partage. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, versé pour la multitude.
Seigneur, nous te le demandons maintenant, envoie sur nous ton Esprit Saint pour qu'en recevant ce pain et en buvant à cette coupe, il nous soit donné de sentir la réalité de ta présence au plus intime de notre vie. Oui, Seigneur, tu fais de nous les invités de ta table. Mais Seigneur, je ne suis même pas digne de ramasser les miettes qui tombent de ta table. Mais tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors grâce te soit rendue, Seigneur, de nous accueillir tels que nous sommes, avec notre foi parfois chancelante et notre cœur parfois si embrouillé. Mais ainsi, Seigneur, nous venons à cette table parce que c'est toi qui nous y convies. Amen.
Oui, frères et sœurs, nous sommes tous invités au repas du Seigneur. Nous avons préparé la table, mais c'est le Seigneur lui-même qui la préside. D'où que vous veniez, quelle que soit votre tradition, vous êtes toutes et tous les bienvenus à la table du Seigneur. Vous allez pouvoir vous avancer dans un instant en vous approchant du fond de la nef jusqu'à la table où on vous tendra le pain, puis les coupes de vin ou de jus de raisin avec un petit ruban bleu. Il y a également des petites coupelles individuelles. J'invite maintenant celles qui vont nous aider à servir, à s'avancer, puis à l'assemblée, à s'approcher pour la Sainte Cène. Je vous invite à vous approcher pour la Sainte Cène. Vous pouvez vous avancer sur deux colonnes comme ça. Voilà, nous arrivons bientôt au terme de cette célébration. Nous sommes dans le temps liturgique des annonces. Je n'ai pas beaucoup d'annonces en cette période estivale. Vous dire qu'il y a bien évidemment toujours le festival d'orgue le samedi soir et de carillon. Et puis qu'il y a bien évidemment culte tous les dimanches. Et dimanche prochain, c'est mon collègue Emmanuel Roland qui sera là pour présider le culte. Nous avons encore un cantique et c'est pendant ce cantique que l'offrande va être recueillie. Je vous invite donc maintenant à chanter le cantique 347 et à participer à l'offrande. Donne-nous, Seigneur, en ce temps d'été, en ce temps de vacances pour certains, la joie simple et vraie de pouvoir nous retrouver en famille ou entre amis et de faire, chez nous et autour de nous, une place pour l'inconnu. Donne-nous la grâce de savoir te prier en contemplant le bleu du ciel, la pluie qui ruisselle, la fraîcheur d'un lac, la grandeur d'un sommet. Apprends-nous à savoir nous reposer et nous émerveiller. Donne-nous la joie d'écouter le silence et de découvrir en tout homme un frère, en toute femme une sœur. Amen. et que la bénédiction de Dieu nous garde et nous conduise dans sa paix. Oui, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous gardent et nous conduisent dans sa paix. Oui, allons avec l'audace de ceux et de celles qui se savent aimer. Amen.